Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de notre débat hebdomadaire Patara sur Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la problématique de la liberté de manifestation en République centrafricaine. En effet, depuis quelque temps, nous assistons en Centrafrique à un phénomène d'interdiction de manifestation lorsque celles-ci sont organisées par la société civile, les syndicats ou encore la jeunesse. Le cas le plus récent, l'appel du GTSC à une manifestation pacifique contre la nomination des mercenaires étrangers à des postes de haute fonction et contre l'absence d'eau potable dans la capitale centrafricaine en date du 15 avril dernier. Laquelle manifestation a été interdite par le gouvernement estimant qu'il s'agirait d'une atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Conséquence, le porte-parole du groupe de travail de la société civile, Paul Cresson Beniga, est mis aux arrêts à la section de recherche et d'investigation sur instruction du procureur de la République. Notons aussi que Gervais Lakosso, coordonnateur de cette plateforme de la société civile, a été lui-même arrêté en 2016 pour avoir organisé une manifestation demandant le départ des casques bleus de la Centrafrique suite au drame de Fatima avant d'être libéré après plusieurs mois de détention. Mais avant le cas Beninga, lundi 1er avril, une marche pacifique convoquée par le groupement syndical des travailleurs de Centrafrique GSTC a elle aussi été interdite par les pouvoirs publics. Cette manifestation devait permettre aux travailleurs et agents de l'État d'exiger du gouvernement l'augmentation de leur salaire vu que des représentants des groupes rebelles étaient nommés en cascade à des postes de responsabilité dans le gouvernement. Le secrétaire général du GSTC a déclaré, je cite, « Les partisans du président Touadéra marchent, on interdit aux organisations syndicales de marcher, qualifiant cette attitude de la démocratie habillée en dictature ». Fin de citation. À noter aussi qu'il s'agissait de la deuxième marche envisagée par le GSTC, empêchée par le gouvernement de Firmin Grébada. Enfin, il y a eu la situation avec le Conseil national de la jeunesse, leur mouvement dénommé Elingbawe, visant à dire non à la récompense aux tueurs, et qui consistait à déposer des copies de leurs diplômes devant les institutions de la République, a été étouffé au motif qu'il fallait remanier le bureau du CNJ dont le mandat arrivait à expiration. Pendant ce temps, un ancien ministre qui s'était abstenu de participer aux festivités du 1er décembre en solidarité aux populations d'Alindéo en détresse avait fait l'objet de la hargne du régime. Question, que dire de l'article 15 de la Constitution du 30 mars 2016 qui stipule que l'État garantit la liberté de manifestation pacifique? Pour en parler, je reçois autour de la table M. Jean-Serge Bokassa, ancien ministre, président du mouvement Contre Tim Cause aussi, mouvement d'opposition démocratique. Monsieur Jean-Serge Bokassa, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Patrick Nombé-Henri, conseiller à la jeunesse, ONG et action humanitaire à la primature, représentant les pouvoirs publics. Monsieur Patrick Nombé-Henri, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile. Monsieur Gervais Lakosso, bonjour.
Bonjour.
Et Madame Charlotte Danouane, opérateur économique centrafricaine de la diaspora en séjour à Bangui. Madame Charlotte Danouane, bonjour.
Bonjour.
Herman Ambona est notre technicien du jour. Je suis Hippolyte Marois à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, M. Gervais Lakosso. La liberté de manifestation pacifique est-elle, selon vous, une réalité en Centrafrique aujourd'hui?
Mais vous comprenez vous-même, selon vos propres analyses introductives, que non, cet article de la Constitution est foulé aux pieds. Il semble même être supprimé par le régime parce qu'on interdit systématiquement et pour N raisons, des raisons imaginaires, aux centrafricains d'exercer ce droit qui est accordé par la constitution de notre pays. Et c'est une démarche à deux vitesses parce que de l'autre côté, quand les partisans du régime veulent manifester, on met les moyens de l'État à leur disposition, ils manifestent librement. Mais quand les centrafricains veulent manifester pacifiquement pour revendiquer des choses du gouvernement, c'est systématiquement interdit. On utilise tous les moyens pour les intimider, pour les arrêter. C'est de la dictature pur et simple, ça n'a pas un autre nom.
Quand vous dites que de l'autre côté, quand les gens veulent manifester, on met les moyens de l'État à leur disposition,
quand
vous avez des éléments pour le dire ?
Bien sûr.
Est-ce que cela
quand,
est déjà
quand les jeunes du parti sont allés manifester devant le bureau de l'ancien ministre des Affaires étrangères pour réclamer sa démission, c'était avec les moyens de l'État. Quand le Premier ministre sortant a organisé un meeting, c'était avec les moyens de l'État. Toutes leurs activités, on ne connaît pas un parti qui est aussi riche en Centrafrique pour mobiliser tous les moyens qu'il mobilise. Ce sont les moyens de l'État. Et nous voyons même les véhicules de l'État distribuer les tracts de leurs activités. Donc c'est les moyens de l'État, c'est la malgouvernance prononcée et c'est de la dictature. C'est une politique de pensée unique. On ne peut pas appeler ça autrement.
Merci, merci Gervais Lakosso, monsieur Patrick Nambéaré. La liberté de manifestation pacifique n'existe pas en Centrafrique selon la société civile. Vous, qu'est-ce que vous en dites ?
Je vous remercie, Hippolyte. Je remercie Ndegaluka de nous avoir donné cette opportunité d'échanger avec la population sur cette question de l'heure de liberté de manifestation. En effet, organiser des manifestations est inscrit dans notre constitution. Donc c'est un droit fondamental. C'est quoi organiser des manifestations ? C'est comme des réunions publiques, à un lieu public, dans la rue. C'est une forme de communication sous forme d'une pression. C'est ce qu'utilisent habituellement les organisations assises communautaires, les jeunes, les femmes, les associations syndicales, les associations politiques, ce qui est normal. Mais ce que nous devons savoir, c'est que dans un pays organisé, il y a des règles et des procédures. Une organisation qui veut organiser une marche, une organisation qui veut organiser un sitting, demande l'autorisation au ministre de la Sécurité. Les services compétents vont apprécier le contenu de la requête et il y a deux cas qui vont se présenter. Il y a un accord, ça signifie que le lieu et l'itinéraire de l'activité est connu et l'activité sera encadrée. L'autre cas de figure, c'est un refus. Le refus signifie que les services compétents ont jugé que cette manifestation sera susceptible de troubler l'ordre public. Et le service prendra sa responsabilité pour dire non. Et naturellement, face au refus des départements de la sécurité, si les organisateurs veulent braver cela, personne n'est au-dessus de la loi. L'accord s'applique à tout le monde et le refus s'applique aussi à tout le monde. Donc c'est trop facile de dire que c'est de la dictature. On n'est pas là pour pinailler sur les mots. Il y a des règles et des normes. Vous voyez, même dans votre maison, avec vos enfants, il y a des règles et des normes. Chacun ne se lève pas pour faire ce qu'il veut, quand il veut, quand ça lui plaît.
Alors, comment expliquer ce phénomène-là en Centrafrique pour en venir au concret hein, de 2016 à ce jour, au moins 5 manifestations des organisations syndicales, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse qui ont toujours été empêchées. Comment comprendre ce phénomène en Centrafrique ?
Il faudrait être précis. En 2016, c'est que vous parlez de quelle activité ?
Ben, il y avait déjà la manifestation.
Le 24 octobre 2016, avec... me rappelle très bien, mon frère Gervais Lakosso avait organisé cette ville morte. Mais elle a été très mal organisée. Il n'y a pas eu l'accord. Et je me rappelle, en ce temps, c'est très intéressant, le ministre de la Sécurité est avec nous sur la table. Ils n'avaient pas eu l'accord du gouvernement pour organiser cela. Ils ont fait le forcing, il y a eu des morts d'hommes. Il y a des jeunes, il y a des femmes qui sont morts, gratuitement. Si cette organisation avait eu l'accord du ministre de la Sécurité qui est sur cette table, ça a été encadré. C'est la MINUSCA qui était accusée, ok ? Si c'était encadré, on ne veut pas connaître les drames qu'on a eus. Aujourd'hui, il y a eu des familles endeuillées à cause d'une mauvaise organisation de cette manifestation organisée par mon frère Lakosso qui est là.
Justement, c'est ça le sens de ma question. De 2016 à ce jour, toutes les organisations de manifestations, toutes les demandes ont toujours obtenu une feuille de non-recevoir, c'est ça. Pourquoi ?
Ce n'est pas évident. Les femmes ont marché. Les femmes ont marché pour la paix. Il y a les organisations religieuses qui ont marché pour la paix. Il suffit de voir les statistiques au niveau du département de la sécurité. Ce n'est pas évident qu'ils disent que toutes les demandes sont refusées. C'est trop facile, ça.
Merci. C'est le cas, c'est le cas.
Il y a les femmes de l'OFCA. Les femmes de l'OFCA ont marché pour la paix, pour remettre des mémorandums avant la tenue de l'accord de Khartoum, pour remettre des mémorandums aux autorités. Les femmes religieuses ont marché pour remettre des mémorandums dans ce sens. Donc, ce n'est pas systématiquement que tous les cas sont refusés. Non.
Vous pouvez me permettre
de pinailler, juste d'aller dans tous les sens.
Juste vraiment, 10 secondes.
Je compte sur vous pour recadrer cela.
Nous sommes dans le cadre de...
Juste 10 secondes. Je veux rafraîchir la mémoire à mon frère. Ce sont seules les manifestations qui ne dénoncent rien, qui ne disent rien contre le régime qui sont acceptées. Les manifestations qui réclament quelque chose au gouvernement, qui ont toujours été pacifiques et dans la forme, ont été systématiquement ou sont systématiquement refuser.
Voilà. Ça, c'est clair.
Bon, d'accord. On va évoluer avec les autres co-débatteurs à ce plateau. Monsieur le ministre Jean-Serge Bokassa, est-ce un péché pour le groupe de travail de la société civile? Parce que c'est de cela l'actualité, hein, d'avoir appelé la population à manifester pacifiquement contre la pénurie d'eau potable, la nomination des mercenaires étrangers présumés dans les hautes fonctions de l'État en violation de l'article 28 de la Constitution du 30 mars 2016.
Je vous remercie. Je profite de l'occasion aussi pour saluer tous ceux avec qui nous débattons ce jour. Je m'en vais très rapidement dire ceci. Dans les présentations, ces derniers temps, ça revient assez souvent, les médias présentent le mouvement contre Timokos aussi comme un mouvement d'opposition, certainement parce que nous sommes dans la contradiction. Nous dénonçons un certain nombre de choses, mais nous n'avons pas encore adhéré au statut d'opposant en tant que tel.
Ah d'accord,
mais,
d'accord. Nous notons.
Merci beaucoup. Nous sommes un mouvement citoyen qui comptons dans tous les cas apporter sa contribution au développement de la démocratie de notre pays.
D'accord.
Vous savez, je pense qu'il n'y a pas lieu de se voiler la face. Aujourd'hui, on est quand même confronté à un système qui aujourd'hui offre un service qui pour moi est un service à la tête du client. J'ai aimé lorsque mon frère qui m'a précédé disait tantôt « Nul n'est au-dessus de la loi ». Les groupes armés sont au-dessus de la loi. Je pense que nous ne devons pas perdre de vue le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui en République centrafricaine. Hier, nous avons été reçus par le Premier ministre qui, dans ses propos, a dit une chose qui m'a interpellé. Il dit « Quand nous sommes arrivés avec le président Touadéra, nous avons trouvé un pays, nous n'avons pas trouvé un État ». Et dans ses différents propos, il s'employait à nous faire comprendre que, d'une part, il était important de signer avec les groupes armés pour la paix. Mais d'autre part, c'était le discours d'un État. Un État, c'est l'ordre. Un État, c'est la discipline. Vous voyez, pour moi, il y a des éléments qui sont vraiment contradictoires. Alors, pour la paix, on accepte d'aller signer des accords de paix. On accepte de nommer, pire encore, de nommer des chefs de groupes armés au sein du gouvernement et à différents postes de responsabilité, mais pour cette même paix-là, on n'est pas capable de se montrer sensible à l'endroit des protestations émises par des citoyens qui le font ouvertement et pacifiquement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut réciter toutes les lois que l'on veut, mais l'application de ces lois pose problème, premièrement. Deuxièmement, je pense que l'État, et dans tous les cas ceux qui aujourd'hui ont la charge de son fonctionnement et ont la destinée du peuple entre les mains, doivent faire attention aux deux poids, deux mesures. Le sentiment que j'ai personnellement est que notre justice, malheureusement, effectivement, n'est pas indépendante. Le sentiment que j'ai, c'est que les manifestations, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Lacosso, qui sont tolérées, ce sont celles qui ne sont éventuellement pas hostiles au régime. Pourtant, de quelle hostilité on parle ? D'hommes à main nue qui protestent librement ? Laissez les gens protester. De toute façon, l'histoire a révélé que, vous savez, le développement des démocraties, surtout en Afrique en ce moment, à partir du moment où des mesures et des méthodes, parfois éhontées, sont prises pour bâillonner le peuple, à un moment donné ou à un autre, le peuple s'exprimera. Et c'est comme ça que la démocratie va se construire. D'ailleurs, partout ailleurs, elle s'est construite comme ça. Je reviens sur un élément très rapidement. En ce qui concerne justement l'époque où la société civile avait organisé la journée Ville Morte, j'étais effectivement ministre de la Sécurité à cette époque-là. Mais je pense que premièrement, cette journée s'est effectivement organisée. Comme a dit tout à l'heure mon frère Patrick, il y a eu mort d'homme, mais d'où sont parties les balles qui ont tué les Centrafricains? Ça n'a pas été les forces de sécurité intérieure. C'est la MINUSCA qui a tiré sur des civils. Je tiens à le préciser. Il y a eu des rapports de nos unités de police, etc., qui ont été élaborés et qui peuvent étayer ce que je dis. La police et la gendarmerie n'ont tiré sur personne. Elle a parfaitement bien joué son rôle. Ceux qui ont tiré, c'est la MINUSCA. Mais ça encore, on a jeté un voile dessus comme on a l'habitude de le faire. Mais nous savons bien que nos compatriotes, par la suite, ont fait l'objet d'une arrestation. Mais les procédures mêmes tendant à les arrêter, ne sont pas passés par moi qui étais ministre de la Sécurité à l'époque. Donc vous voyez, c'était des dysfonctionnements auxquels on était confrontés, qui nous ont mis mal à l'aise. Qui nous ont mis mal à l'aise, c'est bien de le relever parce que ça nous permet aussi de faire un peu de mémoire par
bien
rapport
sûr,
à ça.
Bien sûr, bien sûr. Alors, mais justement, revenant sur l'un de vos propos, vous avez dit que l'on ne veuille ou pas, un jour ou l'autre, le peuple s'exprimera.
Tout à fait.
Pour le cas de la République centrafricaine, et faisant allusion à ce que le ministre vous a dit, prenant ce pouvoir, ils ont retrouvé un pays et non un État. Est-ce que le peuple n'est pas trop vite allé en besoin pour s'exprimer? Il ne fallait pas laisser un peu la chance à cet État-là de stabiliser, de lancer la machine avant de s'exprimer?
Est-ce que vous savez à quel prix aujourd'hui nous avons ce brin de stabilité? Si on remonte dans le passé, ce n'est pas simplement au prix de la présence de la MINUSCA chez nous. C'est au prix du sacrifice d'un grand nombre de compatriotes qui sont tombés pendant les heures les plus sombres que nous avons connues. Si ce peuple-là ne s'était pas levé pour protester, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Donc moi je pense que ça participe aussi de cette liberté d'expression. Je crois que le gouvernement, le pouvoir en place, doit aujourd'hui accepter cela. Je pense qu'il faut, plutôt que de brandir avec véhémence des principes
qui pour nous aurait été acceptable s'il s'appliquait à tout le monde, devrait faire preuve de plus d'humilité, hein, et de moins d'arrogance. Plus de compréhension vis-à-vis des populations qui manifestent, parce que, encore une fois, il y a des manifestations. Vous me direz peut-être que dans la forme, il y a peut-être des étapes à franchir, des accords à demander, éventuellement accords qui ne seront jamais accordés. Mais lorsque il arrive qu'il y ait des phénomènes comme ça, sur le plan social, où les populations se lèvent pour protester, je pense que le mieux à faire, ce n'est pas simplement de les réprimer, c'est de les encadrer, c'est de dialoguer avec les gens. S'il y a eu des écarts, c'est de rappeler à l'ordre. Parce qu'on est dans un contexte où, manifestement, on se plie devant des chefs de groupes armés qui tuent impunément au quotidien. Alors, face à eux, alors est-ce à croire que chaque Centrafricain aujourd'hui doit prendre les armes pour se faire respecter ?
Non, c'est pas ce voilà, combat aussi encouragé. Merci, monsieur.
C'est qui se décide ?
Alors, vous voulez...
Oui, juste un petit mot.
Oui, un petit Hippolyte, mot avant de passer
je souhaite...
à Madame Charlotte.
Il y a eu pénurie d'eau à Bangui. Nous sommes tous Centrafricains. Nous avons tous subi ça dans notre chair. Il n'y a pas un Centrafricain qui va dire qu'il ne connaît pas ce problème. Sa famille n'a pas connu ça. Mais le gouvernement a pris sa responsabilité. Et vous savez que le problème de Sodeca, c'est comme l'Enerca. Le problème vient de loin. Mais le gouvernement a pris sa responsabilité à travers la déclaration du Premier ministre. Ils ont engagé des fonds pour pallier progressivement à ce problème. Et la preuve, la société de consommateurs a renoncé à leur activité de bidon jaune. C'est que nous saluons même cette décision salutaire.
Je pense qu'il aurait fallu garder la même démarche vis-à-vis des autres contestataires.
Non, ou ne me coupez pas, j'arrive dessus. Nous sommes tous des Centrafricains, nous connaissons les problèmes.
Il a ouvert une parenthèse.
Un instant, Serge.
Le recadrage
s'il te plaît, s'il te plaît.
Je vais reprendre la parole.
S'il te plaît, je dis ceci. Nous connaissons les réalités de ce pays. Nous connaissons les réalités de l'accord de Khartoum, qui est aujourd'hui une chance pour ce pays. Mais chacun l'apprécie. Chacun l'apprécie à sa manière.
D'accord, merci à vous, M. Patrick Nambiaré. Alors, Mme Charlotte Danouane, vous êtes opérateur économique. Vous avez suivi les interventions jusque-là sur cette problématique de la liberté de manifestation en Centrafrique. Quand on suit un peu le mouvement contre Tchimokos aussi, quand on suit le groupe de travail de la société civile, ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique relève de la politique de deux poids, deux mesures, ce que les pouvoirs publics n'entendent pas. Bonhomme, est-ce que vous avez un avis contraire ?
Merci pour la question, Hippolyte. Donc, je vais revenir sur la question 2. Déjà, vous avez posé la question par rapport à la liberté de la manifestation. Oui, bien sûr, on peut se manifester, bien sûr, quand les gens se lèvent pour manifester, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour exprimer leurs pensées.
Oui, et revendiquer des droits.
Les droits, donc, après, comme dit le frère Patrick, il faut faire une demande. Et si la demande a été rejetée, je pense qu'il y a plusieurs manières de manifester. On peut aussi écrire, mais quand on rejette la demande et que les gens se lèvent comme ça, mal organisé pour manifester, c'est vrai que ça peut causer des problèmes. Mais moi, en personne, si je fais une demande qu'on rejette la je fais une demande d'une manifestation qu'on rejette la demande, mais je peux encore faire une demande par écrire, même écrire et expliquer ce que je veux pour pouvoir me lever pour manifester. Ça veut dire qu'il y a une raison, donc je peux écrire pour montrer ma raison. Et maintenant, concernant la nomination de
des mercenaires étrangers à des postes de responsabilité.
Moi, sincèrement, après cette nomination, après réflexion perso, moi j'ai dit c'est une stratégie. Bon, c'est vrai, les gens sont... Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais pour moi j'ai dit que c'est une stratégie.
Stratégie de la part de qui ?
De la part de chef de l'État. Et c'est vraiment un sacrifice que le chef de l'État a fait, déjà, de son gouvernement. Moi je dis ça, c'est un sacrifice de son gouvernement.
Pour quelle cause ?
Je peux l'aider ? Je peux l'aider ?
Mais elle est assez grande, vous parlez.
Je vous donne un cas de figure.
Allez-y, monsieur.
Beaucoup d'entre nous traînent à Bangui. Je vais souvent dans la RCA profonde. Là où sévissent ces mercenaires étrangers. J'ai participé à la mise en place du comité de suivi de Khartoum dans l'OMPND. Aujourd'hui, vous savez, il y a des points faibles, il y a aussi des points forts. Nous parlons de Khartoum ici, on nous signale dans l'est du pays, vers Bokorbo, vers la Basse-Koto, il y a encore Zangba. Il y a des tueries. Ça, c'est des points faibles de cet accord qu'il faut recadrer. Dans l'OMPND, par exemple, le chef rebelle Sidiki a cantonné tous ses hommes. L'axe de Bozoum ou de Bossangwa pour aller en Baïmboum, c'est fluide.
tous ces hommes sont cantonnés, il a autorisé les forces de défense intérieure, ce sont eux qui sont sur les barrières actuellement. Donc l'axe pour aller vers Bétoko, l'axe pour aller vers Mbaïmbou est fluide. Vous voyez, ça c'est des points qu'il faut encourager. Alors, mais je suis d'accord que ce qu'on entend à l'est du pays, à Zangba, où il y a encore des tueries, ça c'est des points faibles. Et je crois qu'il y a des dispositions prévues pour essayer de recadrer cela. Donc quand on dit que c'est une chance pour le pays, ça ne veut pas dire que c'est une bible. Non, un accord dépend de l'application des hommes. Il y a des points forts et des points faibles.
On a aussi une petite contribution à apporter.
Oui, monsieur Chancel, je vous
casse. Ce que moi je trouve choquant, c'est qu'on veut faire passer certains, ceux qui remettent en cause l'accord de Khartoum, pour des personnes ou des citoyens qui sont éventuellement ou contre le régime ou contre la paix, ce qui est totalement faux. Je pense qu'on est tous citoyens de ce pays-là. Vous savez, quand on prend le modèle, par exemple, sud-africain ou on prend le modèle rwandais, vous verrez que les approches n'ont pas été les mêmes. On ne s'est pas levé un matin, allé autour d'une table avec des mercenaires potentiels, parmi lesquels on compte un certain nombre d'étrangers, et signé des accords comme ceci. En faisant justement de la société civile et des partis politiques et même de l'Assemblée nationale des observateurs. Moi je pense que lorsqu'on veut que la nation tout entière puisse consentir à un sacrifice, par les méthodes que l'on emploie, on engage la République. Au travers de toutes ses représentativités, on l'engage à faire ce sacrifice-là. Vous ne pouvez pas décréter la paix et l'imposer comme c'est le cas aujourd'hui. Moi j'aimerais bien que M. Patrick puisse aller dire aux familles de ceux qui ont été exterminés, violés, tués, que Khartoum, c'est pour eux, c'est pour leur paix. Comment est-ce que eux... Parce qu'il ne faut pas rester dans notre bulle. Il ne faut pas rester dans la bulle de nos petits intérêts et complètement sacrifier l'ensemble des principes aujourd'hui qui touchent à la vie de toute une nation. On ne va pas laisser, par exemple, que des personnalités comme Ali Daras, on a vu son espèce d'intronisation, entre guillemets, à Bambari récemment. Mais moi, je me mets toujours à la place. Vous savez, chacun se situe du côté de l'histoire qu'il veut. Vous avez ceux qui sont aujourd'hui et qui ont des choses à défendre. Qui a une fonction, qui a un régime. Moi, je pense que le Centrafricain a justement péché la plupart du temps parce qu'il s'est inscrit dans des intérêts qui sont en deçà de ce que l'on attend de lui. Pour moi, le Centrafricain, quel que soit son bord, doit défendre les intérêts de la nation, doit défendre les intérêts de son pays. Il arrive aujourd'hui, on entend parler de ce que un certain Ludovic Ledo, que je ne connais pas, serait sacrifié du fait de ses prises de position. Oui, tout simplement parce qu'il a essayé de défendre justement le GTSC en disant que ce qui vient d'arriver n'est pas normal. On ne peut pas dissocier...
Il a été sacrifié par qui?
Par son parti.
C'est
par
des rumeurs. Ledo est mon adjoint. Je peux vous le dire. Je suis le responsable de la communication.
Je peux finir,
Est-ce
que je peux finir?
Je peux faire un cadre ça tout de suite.
Est-ce que je peux finir?
Merci beaucoup. Allez-y.
Ça tient lieu de ses propres publications.
Voilà. Merci beaucoup.
Demandez à votre ami de corriger ce qu'il a écrit.
C'est mon adjoint.
Ok.
Il n'a jamais communiqué avec moi.
Donc,
voilà,
ça fait, c'est ses propres communications.
S'il avait une sanction.
C'est rendu public.
S'il avait une sanction de son parti, je le saurais.
C'est rendu public.
Merci beaucoup.
C'est rendu public. C'est rendu public. C'est pas moi qui le dis. C'est rendu public.
Merci.
Voilà. Donc, il faut peut-être vérifier aussi la source de vos informations.
Merci.
Maintenant, je veux dire ce que je disais. Tantôt, oui. Donc, on ne peut pas dissocier ces aspects-là de notre débat. Pourquoi? Parce qu'on veut apprécier les choses globalement pour mesurer l'équité des mesures qui sont prises. On ne peut pas juste nous enfermer autour d'un texte et dire qu'on va spéculer simplement autour de ce texte comme si on était dans un état de droit. Ce n'est pas normal. Pour moi, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes un état fragile. Nous sortons d'une crise. On veut construire un état de droit. Et donc, on a besoin de la contribution de tout le monde. On a besoin de ceux qui protestent. Et qui le font, justement, dans le respect d'un certain nombre de règles.
Mais c'est d'ailleurs le principe de la démocratie.
Ils ne prennent pas les armes.
La contradiction fait partie
exactement.
De la démocratie. Ouais. Alors, nous donnons la parole à M. Laposte. Peut-être en réagissant, on va également évoluer dans le débat. Il y a ce problème-là. C'est vrai, on a parlé du GTSC qui est aujourd'hui empêché de manifester. Je voudrais également qu'on comprenne un peu dans quel contexte, dans quel cadre... Une revendication citoyenne peut être considérée comme une atteinte à la sûreté intérieure de l'État?
Ça, c'est une très belle question que j'aimerais bien entendre mon frère Patrick, qui représente les pouvoirs publics, nous donner des réponses précises là-dessus. Mais là, maintenant,
moi, je vais donner mon... question.
Non, mais je vais donner mon avis là-dessus. Mais c'est vous qui représentez les pouvoirs publics ici et c'est vous qui décrétez que telle ou telle manifestation porte atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce n'est pas nous. Et donc, moi, je voulais faire un petit commentaire sur l'intervention de ma sœur ici. Bon, ça se voit bien que vous venez de la diaspora où les choses se passent de manière normale là-bas, que quand vous faites une demande, quand c'est refusé, vous avez ce qu'on appelle un recours. Ça peut être gracieux ou pour vous plaindre. Pourquoi? Mais ici, ce n'est pas le cas. quand vous vous demandez, on vous refuse, on vous refuse. On ne vous reçoit même pas pour vous donner le temps d'expliquer ce qui se passe. Plusieurs fois, tout le temps.
Et
nous ne faisons que ça.
De vous répondre.
Bien sûr.
Quand
bien
on sûr refuse, que oui. Bah, on peut saisir le tribunal administratif.
Voilà. Oh, mon frère, il faut pas faire de l'hypocrisie. Oui, il faut pas se moquer du peuple. Il faut pas se moquer du peuple.
C'est la procédure normale, mon frère.
Il ne faut pas se moquer du peuple. Un peu de respect pour la souffrance du peuple. Un peu de respect pour cette prise en otage de notre liberté. Et justement sur cette question, quand est-ce qu'une manifestation peut porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État? Quand l'organisation qui le projette n'est pas connue par l'État, quand les organisateurs, ceux qui dirigent cette organisation ne sont pas connus par les services de l'État, là l'État peut avoir peur parce qu'il y a un inconnu. Quand c'est des tracts qui sont lancés, ça et là, l'État peut prendre ses précautions. Mais le cas de syndicats, ce n'est pas une organisation inconnue. Le cas de CNJ, ce n'est pas une organisation inconnue. Le cas du GTSC, ce n'est pas une organisation inconnue. Le GTSC agit toujours à visage découvert. Nous sommes une organisation légalement constituée. Nous sommes constitués, nous avons des juristes, des intellectuels de haut niveau en notre sein. Nous fonctionnons selon la règle. Mais alors, c'est en face qu'on voit toujours le mal partout. Il faudrait bien que les juges, il faudrait bien que le pouvoir public nous explique pourquoi ils voient l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État partout.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que les pouvoirs publics ne seraient-ils pas dans l'erreur quand ils considèrent ces manifestations-là organisées par des institutions reconnues?
Pas de passion, pas d'amalgame.
Il n'y a aucune passion, nous posons une question.
Ces organisations...
Est-ce que les pouvoirs publics peuvent répondre à cette question précise?
Le CNJ, par exemple, a manifesté. Ce conseil a été reçu par le chef de l'État. Ce conseil a été reçu par le Premier ministre, j'étais présent. Il y a eu communication, on a échangé, on s'est sorti avec une entente mutuelle. Ce que j'ai dit, vous pouvez rencontrer ces jeunes qui sont responsables, que je respecte, ils vont vous le dire. On a échangé, c'est des jeunes responsables qui savent ce qu'ils veulent. Ils ont posé un problème et on leur a répondu. Vous savez, le syndicat a été reçu par le Premier ministre. Ils ont posé en toute responsabilité un problème, il y a eu échange, ils se sont séparés avec un terrain d'entente. Alors, quelle est cette histoire pour dire que systématiquement, on refuse tout? Non. Ne faisons pas de l'amalgame.
La marche du syndicat était interdite.
Oui, ensuite, ce bureau a été reçu. Et les négociations ont commencé. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a des normes pour organiser...
Pourquoi ça n'a pas été le cas pour le GTSC?
Il y a des normes pour organiser une marche, je l'ai dit au début. Ouais. Vous saisissez par une requête le département de la sécurité. Il n'y a pas eu accord.
Il faut reposer la question.
Pourquoi cela n'a pas été le cas pour le GTSC, le groupe de travail de la société civile?
J'arrive dessus. Ouais. Il y a trop de confusion. Il y a une semaine avant les événements, la date butoir du 15, des tracts ont été ventilés. Curieusement, le contenu de ces tracts, c'est ce que publie le groupe de la société civile. Moi, ce sont mes frères, je les respecte. Le contenu de ces tracts, c'est ça qui est publié par ce groupe de société civile. Vous voyez un peu? Donc, les tracts, il y a un intitulé « Likongo » et autre chose, quoi, vous avez dû avoir ça. Oui. Le contenu a été publié par ce groupe de la société civile. Attends, allez-y un peu.
Posez le lien.
Non. Le coordonnateur l'a dit.
Le contenu n'est pas du tout identique.
Exactement.
Absolument pas.
Souffrez de m'écouter un peu.
Je t'écoute, mon frère.
Donc, vous l'avez dit ici. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un État à interdire une marche? Mais c'est quand on ne connaît pas le contenu, on ne voit pas l'issue de ce que vous voulez faire. Vous voyez un peu? Donc, vous balancez des tracts, c'est déjà illégal.
Jamais nous n'avons balancé des tracts.
Deuxièmement,
je vous permets de vous couper.
Le contenu de ces tracts, c'est relayé par vos membres. Mais vous êtes automuselé.
Est-ce que vous avez des éléments pour le dire?
Nous avons la preuve.
Nous qui?
Nous avons, nous, citoyens, et je parle
non, en mon nom,
et nous ici autour de la table.
C'est le groupe de la société civile ou c'est
quel? Nous ici autour de la table, nous avons la preuve, oui. Au travers des propos tenus par M. Patrick, du mode de fonctionnement de ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de conduire la destinée de ce pays ou l'État, au travers différentes responsabilités politiques. Parce que vous voyez, voilà, M. Patrick incarne ici les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'il dit? Mais nous avons lu le contenu du courrier du GTSC Et c'est le même contenu qu'il y a dans le tract. Alors ceux qui vont écouter, qui n'ont pas lu cela, vont peut-être vouloir garder ça. C'est une déformation flagrante. C'est une déformation flagrante. Et il va même plus loin, en leur disant, vous distribuez des tracts. Vous voyez comment ils fonctionnent. Vous voyez comment aujourd'hui le pays est gouverné. C'est extrêmement grave. Où est le recul qu'il faut pour pouvoir justement laisser le soin à des instances appropriées ou des services appropriés pour faire ce genre de constat-là? Il ne lui revient pas à lui. Moi, j'ai lu les deux tracts. Comment lui, dans sa lecture, il voit que les deux tracts se ressemblent et moi, je trouve le contraire. Il n'y a que deux éléments que l'on retrouve dans ce fameux tract qui a été publié et qui est porté par la lettre du GTSC. C'est le problème de l'eau et c'est les nominations des groupes armés. Mais tout le reste que l'on retrouve dans le tract ne se retrouve pas dans le document du GTSC. Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui que la nomination de ces mercenaires, hein, parfois étrangers, au sein du gouvernement et à différents niveaux de responsabilité, ne constitue pas aujourd'hui une préoccupation pour le peuple centrafricain? Les gens en parlent. Il ne faut pas se voiler la face. Les gens en parlent. Donc, s'il y a certains compatriotes qui prennent leur courage pour dire haut ce que les gens pensent bas, moi, je pense qu'il ne faut pas leur jeter l'opprobre dessus. Voilà, Nanatem.
Merci,
voilà.
Monsieur.
Je peux apporter une précision.
Oui, oui.
Voilà, justement, c'est les mêmes questions qu'on nous a posées lors de notre interrogatoire et tout. Bon, on ne parle pas d'une instruction judiciaire ici, même si c'est de la bizarrerie. Mais les choses sont claires. On cherche la poule dans la tête d'un chauffe. La déclaration du GTSC est claire. Il n'y a aucun lieu de faire l'amalgame. Et comme Jean-Serge Bokassa l'a dit, il y a des points communs que ce tract a soulevé.
Ah bon ?
Mais puisque c'est un problème national. C'est un problème national. C'est pas un problème isolé. Il n'y a pas que le GTSC seul qui connaît. Vous-même, vous avez dit ici. Je me contredis pas. Je me contredis pas. Je suis clair. Souffrez de me suivre.
Allez-y,
vous-même, vous avez soulevé ici que tout le peuple centrafricain a souffert dans sa chair de problèmes de manque d'eau. Ce problème de nomination des mercenaires étrangers à des hautes fonctions politiques et militaires, c'est une majorité écrasante de centrafricains qui sont contre. Alors, chacun fonctionne par ses moyens. Nous, nous sommes une organisation légalement constituée. Il y a des compatriotes qui n'ont pas le courage de s'affranchir, de s'afficher, peut-être à cause de toute cette tractation, à cause de ce rejet de l'expression de peuple, qu'ils ont opté de se cacher pour faire une tracte. Mais les propos qui sont dans ces tracts-là n'ont rien à voir avec les propos du GTSC, avec les revendications du GTSC. Le tract demande la destitution du chef de l'État, tout et tout. Le GTSC n'a pas demandé ça. Et lorsque nous, on voudra demander la destitution du chef de l'État, restez tranquille, on le fera à visage découvert. On le fera à visage découvert. On ne se cachera pas pour le faire. Donc, alors, soyez tranquille.
Aujourd'hui, soyez tranquille. Je pose la question.
Hippolyte, s'il vous plaît. Une seconde. Je suis content d'avoir en face de moi mon frère que je respecte beaucoup, qui est un ancien ministre de la Sécurité. Je sais de quoi je parle. Vous savez un peu ? Je sais de quoi je parle. Et mon frère Lacosso me connaît. J'ai été fabriqué par la société civile. Je connais les modes opératoires. Et si je me permets de le dire, qu'il y a un rapprochement entre les deux tâches, je sais de quoi je parle. On ne va pas étaler des choses ici.
Alors, si justement, posant le problème...
Il insiste sur la nomination des médecins étrangers, vous savez... Le sacrifice, c'est pas moi qui vais vous donner la définition de mon sacrifice. Avaler des couleuvres, c'est pas moi qui vais vous donner la définition. Ok ? Quand on se retrouve dans une situation,
je peux expliquer
nous sommes
ce que
arrivés
le régime
dans une situation extrême.
C'est pas un sacrifice.
Et il faut faire un bout pour avoir la paix. C'est une option, c'est une décision qui a été prise. Maintenant, on verra le reste.
D'accord. Aujourd'hui, nous sentons cette énergie avec laquelle le gouvernement s'emploie pour pouvoir réglementer ou à la limite interdire les manifestations des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse, des organisations syndicales. Pourquoi ne sentons pas cette même énergie du parquet ou encore du régime en place contre certains leaders de groupes armés qui sont déjà visés par des mandats d'arrêt?
Toutes ces questions, vous me renvoyez sur l'accord de Khartoum. À l'aise pour parler à ça. Sinon, on va faire digression, s'il vous plaît.
Non,
c'est pas interdit.
On va faire digression.
C'est permis de rester dans le débat.
Ce n'est pas un harcèlement, c'est une question de responsabilité. Le gouvernement est garant de la stabilité du pays. Dans toute sa fragilité,
compris,
est garant. Ok ?
D'accord.
Donc, ce n'est pas un harcèlement pour interdire, mais en tout cas, il y a des règles et des procédures. Vous voulez construire une maison, vous allez prévoir des ouvertures, une fenêtre et une porte. Mais l'entrée dans cette maison, vous entrez par la porte, vous entrez pas par la fenêtre. Acceptez que même si nous sommes fragiles, mais nous sommes un État, il y a des normes et des procédures qu'on doit respecter. Ce n'est pas une histoire d'interdire systématiquement toute manifestation à des organisations.
Merci à vous. Si vous permettez, hein, il y a Martin Charlotte qu'on n'a pas écouté suffisamment jusque-là, justement sur ce que vient de dire M. Nambiaré. Tout ce qui se fait en ce moment n'est pas du harcèlement. Contre la société civile, ce n'est pas du harcèlement. Contre la jeunesse, ce n'est pas du harcèlement. Contre le syndicat, mais c'est de la responsabilité. Est-ce que vous partagez cet avis? Quand les gens en ont marre, manquent de l'eau potable, revendiquent ce droit qui est un droit à la vie et qu'ils sont empêchés de le faire, est-ce que c'est de la responsabilité?
Excuse-moi, Hippolyte.
Je pose la question, madame Charlotte.
Excuse-moi, Hippolyte.
S'il vous plaît, permettez qu'elle les femmes, Patrick.
Vous prendrez la parole après.
Merci. Bon, je suis pour et contre. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai qu'on a ce problème-là, comme je crois que c'est le frère Patrick qui a dit tout à l'heure que ce problème d'eau vient de loin. Et que le gouvernement essaye de faire ce qui est de mieux pour réaliser ça, mais malheureusement ça continue. Et maintenant, franchement, les manifestants.
Oui, alors, quand vous dites que malheureusement ça continue, ça donne pas raison à la société civile de poser le problème?
Non, ça donne pas raison. Non, ça donne pas raison. Parce que, comme je dis tout à l'heure, on peut manifester, bien sûr, on a le droit de manifester, mais on ne peut pas manifester pour n'importe quoi. Là, les manifestations, déjà, moi, en tant qu'opérateur économique, ça joue sur nous et ça pénalise vraiment le pays, ça joue sur l'économie du pays. On bloque la journée parce que voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci, mais on ne peut pas, le gouvernement, le chef de l'État ne peut rien faire contre ça. Il ne peut pas se lever comme ça pour creuser les canaux et je ne sais pas.
D'accord.
Je peux vous aider, Hippolyte. Je vous ai dit, le problème de pénurie d'eau, ça a affecté tout le monde. Même le chef de l'État, que le Premier ministre, le président de l'Assemblée, tout le monde en souffre. Dans tous les quartiers, on voit des petits-enfants et des bidons jaunes. Ça fait mal. Mais entre nous, c'est un problème centrafricain. Les installations datent d'avant les indépendances. Et le gouvernement, à travers le Premier ministre, a pris sa responsabilité pour engager des fonds nécessaires. Il y a un programme d'installation des forages et puis renforcer la capacité de Sodeca pour essayer de résoudre progressivement cela.
D'accord.
Donc on ne refuse pas, c'est un problème réel. Mais le gouvernement a pris sa responsabilité.
D'accord, pour ne pas vous prendre sur le mot, c'est un problème.
Le chef de l'État ne peut pas travailler à la place de la Sodeca non plus.
Si la Sodeca n'a pas les moyens.
Non, permettez, je suis content d'écouter M. Patrick qui dit que c'est un problème centrafricain. Pourquoi aujourd'hui ce problème centrafricain se retrouve presque devenu un problème de justice, ou encore un problème de M. Beninga, ou encore un problème des membres du groupe de travail de la société civile?
Ok, je vous réponds tout de suite. Ce n'est pas un problème de mon petit frère Beninga, que je connais très bien. Ce n'est pas un problème de Beninga.
Mais il est en prison. Il est en prison.
Ce n'est pas un problème de groupe de la société civile.
Mais nous sommes traqués.
Nous sommes interpellés.
Voilà. Je vous ai dit que c'est un cadet que je connais. Je fais confiance à la justice de mon pays. Ok. Pour le reste, les manifestations ont des principes et des normes. Je reviens là-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais ce n'est pas un problème national.
Sera libéré demain.
Pardon ?
Si vous dites que vous faites confiance à la justice,
je ne suis pas la justice, mais
aujourd'hui, pas demain. Moi, je voulais ajouter un petit détail. Oui, quand Madame dit que on ne peut pas manifester pour tout et n'importe quoi, nous ne manifestons pas pour n'importe quoi. La question d'eau est vitale. La nomination des mercenaires étrangers à des postes de haute fonction politique et militaire est dangereux pour notre pays.
Je crois qu'on a dit que la question d'eau est vitale, mais ça touche tout le monde.
Ça touche tout le monde, mais est-ce que vous avez observé que le gouvernement en a fait ses priorités? Vous avez vu le train
bien
de vie
sûr
du gouvernement? Non. Laissez-moi parler. Souffrez que je parle. Nous avons appris que la Sodeca a déposé des budgets et des devis plusieurs fois, N fois, auprès des autorités nationales.
Et ils ont rien fait?
Bien sûr que oui.
Voilà.
C'est après les manifestations, c'est pas des rumeurs, mais c'est quand on a lancé le mot d'ordre qu'on a décaissé 105 millions. Non, et 105 millions, ça représente quoi?
Heureusement, par rapport à mon frère Serge. mon frère Serge, qui a géré l'État à un haut niveau, ne dira pas ça. Il aura de la réserve.
Pourquoi il ne dirait pas ça? Non, mais laissez-moi.
C'est normal que tu le dises.
Souffrez. Il me permet de rebondir. Alors, il me permet de rebondir. Il me permet de rebondir. Il me permet de rebondir éventuellement.
Non, souffrez que je finisse. Souffrez que je finisse. L'État n'en a pas fait sa priorité. Et justement, si vous ne représentez pas l'État ici, madame, donc soyez dans votre cas. Qui fait la politique? Ah, ben oui, vous parlez comme une représentante de l'État, malheureusement.
Non.
Vous parlez comme une représentante de l'État. Et donc, déjà, je répète, la question de l'eau n'est pas du n'importe quoi. Parler des affaires du pays n'est pas du n'importe quoi. On a le droit d'en parler. Et c'est un droit fondamental que personne, ni qui que ce soit, ne peut nous enlever.
D'accord.
Mais vous l'avez dit. Et donc, laissez-moi. Voilà. Et donc, manifester pour le régime. Apparemment, on nous a enlevé ce droit. Et ce que M. Nambiaré dit, il parle de justice. Il n'y a pas de justice. Le GTSC est tout simplement harcelé. Un harcèlement judiciaire, un harcèlement administratif, politique et de tout genre. Quand on a lancé ce mot d'ordre, on s'est adressé au gouvernement, mais le parti au pouvoir a monté au créneau pour nous insulter, pour nous traiter de tous les noms, pour dire sans preuve à l'appui que nous avons reçu 29 millions. Et contrairement aux pratiques judiciaires, c'est le procureur général auprès de la cour d'appel qui mène la poursuite contre nous. Ce n'est pas de son ressort. C'est le procureur de la République qui devait le faire. Pourquoi c'est lui qui le fait? Nos locaux ont été perquisitionnés avec la présence d'au moins 100 agents de forces de l'ordre lourdement armés. Malheureusement pour eux, ils n'ont rien trouvé de compromettant dans nos locaux. Et l'ONASPORT, chez qui nous louons, nous a notifié la résiliation de notre contrat de bail. Arguant que nous avons des arriérés de paiement, alors que nous ne leur devons rien. Nous payons régulièrement nos loyers. Il y a des gens, des dignitaires du régime qui louent là-bas, qui ne payent pas et donc, qui ne sont pas inquiétés.
Vous avez le sentiment,
ça, c'est pas un harcèlement.
Vous avez le sentiment d'être harcelé aujourd'hui.
Mais ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Nous sommes harcelés.
Alors,
nous sommes traqués.
J'en viens, monsieur Chancel, je vous casse. Tout à l'heure, vous avez suivi monsieur Patrick Nambéaré qui parle aujourd'hui de sacrifice. À travers tout ce que le pays a connu, il était une nécessité d'en arriver là à ce sacrifice, d'où l'accord de Khartoum. Alors on peut dire aujourd'hui qu'au nom de cet accord, on doit sacrifier les valeurs de la République, sacrifier des articles de la Constitution, ou encore doit-on faire face aux problèmes cruciaux auxquels la population elle-même fait face?
Moi je pense que aujourd'hui, chaque Centrafricain a consenti à un grand nombre de sacrifices dans sa chair. Personne ne peut le nier. Chaque Centrafricain. D'autres plus que d'autres encore. Parce qu'il y a des compatriotes qui ont compris qu'à un moment donné, dans le cours de l'histoire d'une nation, lorsque celle-ci éventuellement est en péril, il est nulle question de défendre des intérêts catégoriels, des intérêts d'un niveau inférieur. Je pense que ce sont des intérêts de la nation qu'il faut pouvoir défendre. Certains ont su se tenir à ce niveau-là de responsabilité citoyenne. Je pense que le modèle dans lequel on nous enferme aujourd'hui est extrêmement grave. C'est une véritable entorse à la démocratie. C'est une violation des lois fondamentales de notre pays. Je pense que la Constitution n'a pas été votée par un seul homme. Le fait d'être chef d'État ne nous donne pas le droit de faire tout. Justement, c'est la Constitution qui balise l'action présidentielle et qui balise aussi celle de chaque citoyen. Lorsque cette Constitution est foulée sur instruction du chef de l'État lui-même, ça pose un sérieux problème. La Constitution a été votée par le peuple centrafricain dans le cadre d'un référendum, donc l'exercice d'une démocratie directe. Aujourd'hui, s'il était question de sacrifice, premièrement, parce que nous avons vu, et j'ai toujours été en désaccord avec cela, je le reste aujourd'hui, c'est mes convictions, que la politique de la main tendue ne nous emmènera nulle part. Elle ne nous emmènera nulle part parce qu'en face, les gens ne parlent pas le même langage, premièrement. Si jamais c'était cela la stratégie du chef de l'État, au travers de la politique de la main tendue, arriver aux accords de Khartoum, on aurait pu le faire dès le début et éviter les innombrables morts qu'il y a eu depuis 3 ans. Parce qu'en face de nous, nous avions des groupes armés qui ne demandaient que ça. Voilà ce qu'ils demandaient. Donc on avait tout simplement le choix. Nous savons, nous connaissons la rhétorique habituelle, mais nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de moyens matériels et logistiques, etc. Mais je pense que la communauté internationale, lorsqu'elle a pris un certain nombre de mesures, que notre pays aujourd'hui abrite une mission importante de la MINUSCA, avait conscience que notre État était rendu fragile par les effets de la crise. Avait conscience que notre pays n'avait plus d'armée. Et c'est comme ça que les casques bleus se sont installés chez nous, avec pour mission la protection civile éventuellement, avec un certain nombre d'autres missions, c'est une mission multidimensionnelle. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que celle-ci, dans tous les cas, pour moi, qui a observé depuis qu'elle est arrivée, parce que nous faisons quand même partie de ceux qui sont restés dans ce pays pendant les heures les plus sombres que nous avons connues. C'est l'ECA et tout ceci et tout cela. On a vu la MINUSCA arriver, mais on s'est rendu compte que son mode opératoire, malheureusement, n'allait pas dans le sens du respect de son propre mandat, tel que nous, nous l'interprétions. Alors celle-ci assistait à des massacres permanemment, où on voyait les populations être massacrées quasiment sous sa barbe. Nous savons qu'elle a des difficultés, certes, mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, les pouvoirs issus des urnes, nous disions à l'époque que lorsque nous militions, avant d'aller aux élections pour qu'il y ait un désarmement post-électoral, plutôt a priori avant les élections, mais qu'est-ce qu'on nous disait ? Ce n'est que des acteurs légitimes qui viendront pour éventuellement désarmer. Nous accompagnerons le désarmement lorsque ces acteurs légitimes seront mis en place. Donc aller aux élections comme ça et nous ferons le travail par la suite. Qu'est-ce que nous avons observé ? Les élections considérées comme des élections sorties de crise, nous arrivons là. Malheureusement, il n'y a eu aucune mesure concrète, aucune mesure de prise vis-à-vis des groupes armés. Les gens, par peur et pour plusieurs autres raisons, peut-être même pour des raisons de compromis et éventuellement de compromission, se sont refusés d'agir. Ont plutôt choisi de cohabiter avec le mal et de le laisser se structurer. Les groupes armés, en prenant le territoire comme ils l'ont fait, n'ont pas fait la guerre à qui que ce soit. Il n'y a pas eu de guerre pour l'occupation du territoire. Ils se sont baladés d'un point à un autre. Et encore une fois, sous la barbe des casques bleus, et éventuellement celle des autorités, puisque nous avions les préfets qui les voyaient venir. Il n'y a pas eu de guerre. Ils se sont baladés, ils se sont installés. Donc, on n'a même pas su empêcher à ces gens de sillonner sur toute l'étendue du territoire, armes à la main. Alors que si on veut parler de l'application de nos lois, ce sont des citoyens qui n'ont pas le droit de détenir des armes de guerre devant eux. Donc, ne fût-ce que ça, je pense que la MINUSCA aurait pu intervenir à ce niveau-là. Donc, vous voyez, nous n'avons pas une armée à mesure d'intervenir au moment où nous arrivions aux élections, certes. Il y avait tout un plan, toute une programmation pour les faire monter en puissance. Mais nous avions l'obligation d'amener la MINUSCA à jouer son propre rôle. Sinon, pour ma part, je ne vois pas forcément à quoi elle servirait. Ça, moi, je pense qu'il faut le dire.
D'accord. Alors, sur ce point précis, M. Patrick Nambéré, aujourd'hui, est-ce que les pouvoirs publics sont-ils à l'aise quand ils voient l'accord de Khartoum qu'il faut appliquer et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, les dispositions de la loi fondamentale qui sont violées?
Je veux toucher un peu ce qu'a dit mon frère Serge. Il a beaucoup parlé, j'ai retenu quelques mots. Il n'est pas d'accord avec la politique de la main tendue, c'est sa liberté. Il reconnaît qu'on n'a pas d'armée. Il reconnaît qu'on n'a pas d'armes, que la MINUSCA ne joue pas pleinement son rôle. Ça fait déjà trop de mélange.
Si aujourd'hui le pouvoir se dit qu'il faut faire diligence, il faut se faire violence, ou encore utiliser vos propres termes, il faut se faire sacrifice, c'est au nom de cet accord. Aujourd'hui, oui, faire sacrifice à telle enseigne de violer les dispositions de la loi fondamentale. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ?
Le groupe de la société civile était à Khartoum.
Quel groupe de la société civile ?
Ok.
Quel groupe de la société civile?
Toutes les
Nous n'avons été nulle part, monsieur.
La société civile était à Khartoum.
Non.
Ben vous allez pas la jeunesse était à Khartoum.
Et pour faire quoi?
La jeunesse était à Khartoum.
Ils ont été cantonnés dans leur chambre alors que le débat se tenait ailleurs.
Était à Khartoum.
Observateur.
Toutes les entités,
ils n'ont pas
toutes
observé.
Les forces vives étaient à Khartoum, ok? Ils sont revenus, l'application pose problème.
Je reviens sur cette question que vous avez posée. Est-ce qu'au nom de l'accord de Khartoum, on doit fouler aux pieds? J'ai dit que, selon moi, il n'y a pas non plus une politique de main tendue. Le gouvernement est en train de faire des compromissions. Le gouvernement est dans une stratégie électoraliste. Et ça, c'est dangereux parce que vous voyez ce qui se passe quand vous descendez de l'avion, vous circulez dans la ville de Bangui, c'est comme si nous sommes en campagne. Il y a les photos du chef de l'État partout dans la ville. Pour quelles raisons? Nous ne savons pas. Le gouvernement est en train de pactiser avec les groupes armés parce qu'ils pensent que ceux-là doivent rester là jusqu'aux élections et il faut qu'ils composent avec eux pour se faire réélire sur le dos du peuple. Et Patrick Nambéré a dit quelque chose d'extrêmement grave et qui traduit la pensée de tous les dirigeants de notre pays. Vous l'aviez demandé, est-ce qu'ils sont à l'aise avec la situation actuelle? Il a dit oui. Ça veut dire que quelqu'un qui a signé la... Vous avez dit oui.
Non, n'invente
vous
pas.
Vous avez dit oui.
Il n'a pas répondu.
Si, voyez, il a dit oui.
En direct, vous montez à la population, je suis désolé.
C'est ça, je ne mens pas à la population.
Hippolyte est là.
Bon, même si vous n'avez pas dit oui, même si vous n'avez pas dit oui, les faits démontrent que vous avez dit oui. Je donne un exemple clair. L'accord de Khartoum exige. Mais c'est mon temps, monsieur. Voilà. C'est mon temps. Je suis un activiste. Okay. Je parle sur mon temps.
Et vous montez mon nom.
Parce que la situation.
Vous mentez au nom de Nambéaré.
Je n'ai jamais menti.
Voilà.
Vous avez dit oui.
Voilà,
ici.
Je suis désolé.
Bon, voilà. L'accord de Khartoum dit clairement qu'après la signature de l'accord, tous les groupes armés devaient déposer les armes, ils devaient cesser d'exercer la violence. Et si c'est le cas, on devrait prendre des mesures contre eux. Mais il y en a qui ont fait. Ali Daras, notamment, il a tué plus de 16 centrafricains à Zangba, il a brûlé 19 villages. Le procureur, la justice, qu'on dit que la justice, laissait la justice faire son travail là. Personne n'a dit le nom de Ali Daras. Et pire encore, le premier ministre de notre pays est allé rester sous le soleil pendant 2 heures de temps pour attendre Ali Daras, un brave civil nigérien de son état qui est arrivé avec 4 étoiles. Et le Premier ministre l'a reçu. Et la communauté internationale l'a reçu. Personne n'a trouvé ça d'anormal. Personne n'a trouvé ça comme une usurpation. Personne lui a posé la question sur les centrafricains qu'il a tués, sur les villages qui l'ont brûlé. Il a été reçu en grande pompe et présenté à la population comme un ministre délégué responsable de la zone de là-bas. Alors ça, comment on peut appeler ça juridiquement? Comment on peut appeler ça au vu de la Constitution?
Alors, revenons-en justement, nous allons donc terminer avec vous, M. Patrick Nambéaré. Au regard de tout ce qui s'est dit, on qualifie le régime de pensée unique, de dictature déguisée. Aujourd'hui, vous faites la prime à l'impunité, aux groupes armés. Est-ce que ce régime, comment vous vous positionnez aujourd'hui par rapport au peuple? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas recevoir assez le soutien du peuple, d'être... abandonner, d'aller dans un sens vraiment en solo.
Soyez rassurés, le président de la République et le Premier ministre sont sereins. Ils savent dans quelles conditions ils ont accédé à la magistrature suprême de ce pays. Ils sont conscients des difficultés que nous traversons actuellement et la sérénité permet de réfléchir, penser à des actions qui s'adaptent à la situation malgré les difficultés et avancer. Il y a une sérénité de ce côté, il n'y a pas de problème.
Sérénité.
Mais pour revenir,
de tous les côtés, côté
il y a une
armées,
sérénité,
sent,
il y a une
société civile,
je
côté,
vous ai dit,
organisation syndicale.
Quand la situation est compliquée,
le régime est serré parce qu'ils ont la bouche
hauteur,
pleine.
Prenons de la hauteur, ok. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes sereins, on doit se respecter ici. Je m'excuse auprès de mon frère Siach, quand je n'ai pas l'acheté, je retire cela. Bon, pour finir, je vous remercie d'être sur ce plateau. On est venu échanger sur le droit à manifester. Et je vous ai dit, nous sommes dans un pays comme tout autre, ça a des règles et ça a des procédures. Quand tu ne respectes pas ça, personne au-dessus de la loi. Même moi qui vous parle, je ne suis pas au-dessus de la loi. Comme deux fois tout le monde.
Merci.
Donc voici ce que je peux vous dire.
Merci à vous, M. Patrick Nambéaré, M. Jean-Serge Bokassa. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime qui se dit serein. Au niveau des autres forces vives de la nation, êtes-vous disposé à accompagner ce régime-là dans cette voie sereine?
Non, je pense que pour ma part, ce n'est pas un régime qu'on doit servir. Même si on appartenait à un régime quelconque, je pense encore une fois qu'il faut hisser le niveau de notre engagement un peu plus haut. Parce que les régimes sont souvent passés. Les régimes ont été souvent accusés de nombreuses dérives. Les régimes ont souvent rencontré des réflexes identitaires un peu partisans, des replis sur soi, lorsqu'ils se sentent menacés. Et lorsque vous êtes au pouvoir et que vous affichez une telle attitude, c'est la démocratie qui est en péril. C'est la démocratie qui est en péril. Il suffit de regarder à la psychose qui règne un peu. Hein, où le centrafricain aujourd'hui a le sentiment d'avoir perdu un peu de sa liberté fondamentale, éventuellement celle de sa libre expression et tout cela. Il y a, moi je pense, lorsqu'on veut consentir à des sacrifices pour la paix, puisqu'il est question de sacrifice, moi je dis encore une fois qu'il y avait des méthodes plus appropriées à envisager. Vous n'allez jamais décréter la paix, vous n'allez jamais l'imposer, vous ne l'imposerez à personne. La cohabitation avec les mercenaires ne s'imposera à personne. Nous sommes citoyens centrafricains. Nous sommes conscients des droits fondamentaux qui sont les nôtres. Lorsque ceux-ci sont menacés, moi je pense que nous avons vu des soulèvements. Aujourd'hui, nous voyons le Soudan, c'est le peuple qui se soulève, qui réclame ses droits. Qu'est-ce qui se passe? Mais les politiques sont obligés de faire marche arrière. Les instruments d'oppression, etc., éclatent, ne peuvent plus jouer le rôle qu'ils ont toujours joué. Et l'histoire de la démocratie, c'est toujours écrite comme ça. Toujours écrite comme ça en Centrafrique, depuis Bokassa, depuis éventuellement Kulingba, Patassé et autres. Ça, c'est toujours écrit comme ça. Malheureusement, chez nous, on ne tire pas les leçons du passé. Moi, je pense que la crise dans laquelle on est aujourd'hui aurait dû nous forcer à plus d'humilité, plus de respect de soi, et nous emmener à transcender un tout petit peu les clivages. Aujourd'hui, vous voyez, le Centrafricain continue de parler régime. Et moi, c'est choquant, parce que j'essaie de me mettre, je dis, je choisis d'être de ce côté de l'histoire. Moi, c'est du côté des opprimés. Mais dit, quand vous parlez de sacrifice, est-ce que vous vous mettez à la place de cette fille qui a été violée par ses gens, ou de cette famille qui a été endeuillée, ou de ceux qui sont aujourd'hui à la belle étoile et qui n'ont plus de refuge, qui n'ont plus de toit, qui subissent les lois de ces bourreaux-là? Vous n'arrivez pas à vous mettre à leur place. On peut rester dans nos petits bureaux climatisés ici et dire oui, 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 sacrifice, sacrifice, sacrifice. Mais ceux qui vivent là-bas, est-ce qu'on a vraiment, on est vraiment en souci de leur sort? Donc vous voyez, on fait des choix. Les uns défendre un parti, les autres défendre un régime. Moi, je pense que nous tiendrons notre salut par un engagement citoyen qui se veut transcender ce genre de clivage-là.
Merci à vous. Fin de ce débat Patara sur Radio Ndekeluka qui, je le rappelle, a été consacré à la problématique de la liberté de manifestation en République centrafricaine. Merci à tous nos invités ici présents ainsi qu'à tous les auditeurs qui sont toujours fidèles à cette émission que vous pouvez également retrouver en ligne sur le www.radiondekeluka.org. Herman Ambo dans la technique, Pauline Marois. L'animation vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique.